Et Pontois parle au Pontois. Habitants, commerçants, artisans, paysans, vous avez des choses à dire? Radio Pont vous donne la parole et la diffuse tous les lundis et jeudis à 17h.
Tiens, Radio Pont donne la parole aux habitants et vous nous avez appelés.
Voilà.
Et c'est chouette.
Oui, ben voilà, juste pour discuter. Je suis quelqu'un qui aime discuter, donc qui aime rencontrer les gens. Et puis bon, ben des fois, on peut rendre service à des gens comme ça qui... ça fait partie de mon ancienne profession, puisque moi je suis aide médico-psychologique à la base, donc je m'occupais de personnes âgées, de personnes handicapées. Et j'ai fait aussi avec des personnes qui avaient une déficience intellectuelle. Donc voilà, je suis habitué à aller vers les gens et à m'occuper d'eux.
C'est ça. Voilà. Et à communiquer. Donc, à échanger. Bon, du coup, votre parcours de vie, on ne va pas tout raconter, etc. Évidemment, mais c'est intéressant. Vous nous disiez tout à l'heure, hors micro, que vous aviez vécu longtemps à La Réunion.
Voilà.
Que vous y aviez fait toute une partie de votre vie. Vous êtes originaire de quel endroit ?
Ouh, c'est compliqué.
C'est compliqué.
C'est compliqué parce que... Alors, bon, je suis né à Paris par accident. Mon père travaillait au Cameroun. Et au moment où ma mère va pour prendre l'avion pour rejoindre mon père au Cameroun, contraction sur la passerelle. Je me suis réveillé dans une clinique à Paris. Alors que, et c'est pour ça que je dis je ne suis pas né sous une bonne étoile, parce que si j'étais né une heure après, je serais né dans l'avion d'une grande compagnie française et j'aurais voyagé gratuitement à vie. Donc voilà, j'ai pas eu de chance.
Vous seriez né dans les nuages avec les voyages gratuits à vie.
Voilà, et donc alors après, oui, j'ai vécu de 2 ans au Cameroun et puis autrement... ma famille est originaire. Alors, il y a de Cherbourg, d'Arcachon et de Brossac dans les Charentes. Voilà. Et puis, j'ai surtout grandi sur le bassin d'Arcachon, entre la Teste et Arcachon. Voilà.
D'accord, donc vous étiez déjà un de nos voisins.
Voilà.
Donc, cette période de vie à La Réunion, qu'est-ce qui a provoqué ça, d'une certaine manière ? Qu'est-ce que vous vous retirez ? Parce que, je crois, 28 ans, vous avez passé là-bas, dit.
Voilà, alors... Toujours, moi, à aller vers les autres, et puis le fait peut-être d'avoir vécu aussi en Afrique. Je vivais à Bordeaux, alors à ce moment-là. Et puis, mes copains, c'était les Ivoiriens, les Sénégalais, que je rencontrais, avec qui je faisais des petites bouffes le soir. Donc, j'ai mangé des choses extraordinaires, super bonnes.
Oui.
Voilà. Et puis, un jour, j'ai fini par rencontrer des Réunionnais avec qui j'ai sympathisé. Et j'ai connu mon ex-femme, comme ça. Et puis, au bout d'un an, après être marié, on est parti à La Réunion. Et puis, la vie fait que 3 ans après, on s'est séparés. Avec elle, j'ai eu une fille qui a maintenant près de 40 ans et j'ai 2 petites filles, hein, donc une de 11 ans et une de 14 ans.
D'accord.
Et donc, avec ma nouvelle épouse qui est aussi une réunionnaise, ça fait 31, 6 ans ou 37 ans que nous sommes ensemble.
Voilà. Félicitations, c'est beau. C'est beau. Vous aviez votre activité professionnelle d'aide médico-psy là-bas ?
Alors, à La Réunion.
À La Réunion,
oui. J'ai été formé là-bas et puis au bout de quelques années, j'ai participé à la formation des professionnels dans l'Institut des travailleurs sociaux pendant 8 ans à peu près, en complément de mon activité professionnelle.
D'accord. Voilà.
Donc ça aussi, ça a été quelque chose, une grande expérience, puisque j'étais animateur de groupes d'entraînement à l'analyse des pratiques et des situations professionnelles. Donc ça permet d'avoir beaucoup d'échanges et puis de faire parler un petit peu les gens pour qu'ils puissent, eux, arriver à comprendre le pourquoi de leurs difficultés professionnelles.
C'est très intéressant parce qu'effectivement, souvent dans les métiers du travail social en général et du médical d'une certaine manière, parce que votre activité était, j'imagine, un peu à cheval entre l'aspect médical des choses et l'aspect social, les analyses de pratique. Souvent, les professionnels ont un peu, entre guillemets, le nez dans le guidon. Ils peuvent parler à leurs collègues, échanger un petit peu vite fait, mais d'avoir comme ça des regards détachés, extérieurs, qui analyse et qui observe et qui appuie sur certaines situations, ça aide à mieux comprendre, à mieux vivre peut-être aussi le travail.
Parce que vous disiez parler aux collègues, c'est pas toujours facile de se confier à un collègue. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une chef de service qui disait toujours, on peut pas aimer tout le monde. On ne peut pas être aimé de tout le monde. Et par exemple, avec des personnes autistes ou psychotiques à qui il fallait donner à cuillère, hein, faire manger, ben, il y a des moments où il ne fallait pas avoir peur de dire aux collègues eh « ben, vas-y toi, parce qu'aujourd'hui avec moi, ben, ça ne passe pas ». Et il ne fallait pas avoir de honte là-dessus. C'est comme ça, ça fait partie de la vie. On ne sommes pas des machines. Et ben, il y a des endroits où, si vous n'arrivez pas à faire manger un résident, ben, c'est vous le fautif. Vous êtes jugé par vos collègues. Par... Donc tout dépend finalement de l'institution où on travaille.
Ouais, de l'organisation générale.
Moi, j'ai proposé à des directeurs d'établissements médico-sociaux, justement, de pouvoir avoir de temps en temps un personnel d'un service, mais d'établissements qui ne travaillent habituellement pas ensemble, mais de se retrouver, parce que les gens ne veulent pas parler, justement, devant les collègues de
devant les pères. Hein,
mais qu'ils puissent se libérer. Voilà. Donc, moi, j'ai perdu mon emploi à La Réunion. J'ai bientôt 50 ans. C'était pas évident de retrouver un travail dans une île où il y a 40% de chômage. Et puis, bon, au bout de 28 ans, un petit peu envie d'aller voir autre chose aussi. Et mon épouse a donc une sœur qui est mariée avec un franco-mauricien qui nous dit bah, « Venez à l'île Maurice, je vais vous aider à avoir les papiers pour être résident permanent. »
Voilà. Donc deux ans passés et quelques à l'île Maurice.
Voilà. Et puis, bon, bah, à l'île Maurice, au bout d'un an et demi, on s'ennuyait un peu. On a voulu faire monter une affaire, un business, comme ils se disent. Et c'est compliqué quand même de s'installer à l'étranger, d'investir et tout. Donc là, on a eu peur, on a repris nos billes, puis on a dit, bon, ben, puisqu'on n'a pas envie de retourner à La Réunion, il faut aller en métropole ou ailleurs. On va investir dans un immeuble de rapport ou quelque chose comme ça. Et chaque fois qu'on cherchait, on tapait, c'est beau, hein, un immeuble de rapport en métropole, ça nous a ramené sur Lourdes. Alors nous, on a cru au miracle. Et puis c'est avéré qu'à l'époque, avec les nouvelles normes hôtelières, il y a eu 70 hôtels qui ont fermé là-bas. Et ben le but, c'était d'acheter un hôtel ou une partie d'hôtel, de le transformer en appartement, de louer les appartements, et puis peut-être de repartir sur une autre île ou dans un autre pays ou quelque chose. Ça n'a pas pu se faire, parce que c'est chose qui nous a vraiment intéressé. Ben, y a un promoteur qui est arrivé qui a dit ben, « moi, je veux tout le quartier ».
Je vais prendre le quartier.
Voilà. Et donc, on s'est retrouvé un peu le bec dans l'eau. Et pourquoi ? Ben, on n'a pas cherché à quitter le département, on est resté et puis on a atterri dans cette vallée de Campan où on a trouvé une petite maison et qui était idéalement placée pour travailler. Et puis c'est ce qui s'est passé pendant 9 ans. Quoi.
D'accord, voilà. Au pied des pistes, de la montagne.
Voilà, mais à travailler toute l'année parce qu'il y a les randonnées, il y a de la spéléo, il y a quand on grimpe aux montagnes, l'alpinisme,
voilà,
il y a de la pêche, il y a de tout. Donc on travaille toute l'année.
D'accord.
Voilà. C'était très bien.
Et puis, comme vous disiez, ce manque d'horizon lointain et de ligne d'horizon et de la mer, de la présence de la mer.
Parce que mon épouse, en plus, n'a pas trop le sens de l'orientation. Et à La Réunion, ils disent on ne peut pas se perdre parce qu'il suffit de regarder de quel côté est la mer et puis on va toujours se retrouver. Mais non, elle a besoin souvent de voir la mer ou l'eau. Quoi. C'est quelque chose que je crois qui la rassure. Donc... Voilà, on est venu donc dans les Charentes. Et donc, pendant 2 ans, on est venu régulièrement pour chercher une maison. Alors, au début, c'était Saujon, ça pouvait être Cozes, ça pouvait être Royan et compagnie. La Rochelle, on ne pouvait pas, on n'avait pas les moyens. Et puis, un jour, on est tombé sur Pont. Et en plus, Pont, première fois, on avait du mal à se loger. On a eu du mal à se loger à un certain tarif, finalement. Et on s'est dit, bon, ben nous, on peut faire quelque chose. Un tarif un peu moins, où les gens, ce sera plus intéressant pour eux. On s'est dit, ben, la ville est sympa, pourquoi pas ici ? Ça nous semblait quand même assez touristique. Donc on s'est renseigné, on est venu 4 ou 5 fois dans le coin en 2 ans. Et à un moment, bon, ben, quand on a réussi à vendre notre maison là-bas, on a dit, allez.
Et d'ailleurs, vous avez trouvé facilement une maison qui correspondait à votre projet ?
Alors en vérité, on a acheté celle qui correspondait le moins à notre projet.
D'accord, c'est étrange, mais pourquoi pas ?
C'est qu'on avait besoin d'une très grande maison, et il y avait on a visité, qui était super, mais bon, la plupart n'avaient pas d'accès pour les voitures. Et ça peut être un gros souci, parce que bah, les gens, ça les sécurise de mettre leur voiture dans un parking ou un garage. Et puis on s'est... dernière maison que on nous fait visiter et qui n'était pas prévue au programme, c'est une maison qui a un cachet. Et on a vu, il y avait un garage ça peut se transformer en habitation, il y avait un hangar ça se transforme en habitation, un terrain bon, assez grand, donc, et puis la maison qui a une façade qui plaît, voilà. Mmh. Donc, on s'est dit, eh ben on y va, alors il y a les travaux, et depuis le mois d'octobre l'année dernière, on est en travaux, on avait prévu 3 chambres d'hôtes, et finalement on n'a pu en faire que 2. La crise sanitaire étant intervenue, alors, il y a des choses qui ne sont pas faites, la piscine, des petits trucs comme ça qui ne sont pas encore faits, qui se feront peut-être.
Oui, des compléments voilà. D'agencement alors, et de services.
Voilà, on devait ouvrir en mars-avril, et puis on a ouvert la première chambre en juin, et on a ouvert la deuxième que là en septembre.
Et, voilà. D'accord. Et c'est comme ça. Des clients ont répondu, vous avez...
Alors on a eu la chance d'avoir en juillet, août, 50% de nos hôtes qui étaient des hôtes de campagne, des Hautes-Pyrénées, qui sont venus pour quelque part
vous rendre visite.
Hein, visite. Et puis bon, l'autre moitié, c'est des gens venant d'un peu partout.
D'accord.
Du passage et tout, mais c'est...
Oui, parce que vous aviez déjà un carnet d'adresses, entre guillemets, déjà votre activité
voilà,
là-bas.
On a un carnet d'adresses conséquent. J'aimerais que les gens... qui servent encore un peu plus, parce que...
Oui,
on tombe dans une période un peu calme, quand même.
Évidemment.
Voilà, mais autrement, non, c'est sympa. La maison plaît beaucoup, c'est principal. Mm-hmm. Surtout à ceux qui étaient venus à Campan, puisque là-bas, on avait une petite maison de ville, comme on dit, hein, où la maison était toute en profondeur, avec un petit jardin au fond. Mm-hmm. Ils se garaient dans la rue. Alors là, ils ont chacun leur accès...
Direct et privatif.
Dans le jardin. Mmh. Ils ont la voiture garée dans le jardin. Donc, ça plaît aux gens. Voilà, c'est comme ça.
Bon. Voilà. Donc, une nouvelle activité professionnelle.
Un redémarrage,
Pont,
voilà.
Un redémarrage d'activité à Pont.
Voilà. Et puis...
Est-ce qu'il y a, pour les auditeurs, est-ce que vous avez un site internet, chose? Parce que tant qu'à faire, si vous voulez bien, on va se débarrasser, entre guillemets, de cette partie commerciale-là. On va parler de vous ensuite, de qui vous êtes, de votre parcours, tout ça. Et donc, pour cette nouvelle activité, comment les gens peuvent vous contacter, se renseigner sur le gîte, sur les chambres d'hôtes?
Oui, il y a toujours des gens en plus qui reçoivent de la famille qui n'ont pas forcément la place.
Donc, pour les loger.
Ça peut être intéressant. Ça fait intéresser les gens de Pont aussi. Donc c'est leclosdespassiflores.
leclosdespassiflores.com.
Voilà.
D'accord. Ça situe où dans Pont?
Alors c'est au 26 de la rue des Jacobins, c'est-à-dire juste en dessous de l'école primaire.
D'accord.
Voilà. Et on est à quoi? À 50 mètres plus bas. Alors c'est une maison qui se repère parce que toutes les maisons sont plus ou moins des maisons de ville côte à côte. Mm-hmm. Et puis celle-là, il y a cette façade avec cet étage immense en pierre des Charentes. Donc voilà. Elle a un cachet, quoi. Donc forcément, elle se voit de loin.
Super. C'était la minute promo sur Radio Pont. On va parler de Pont, du coup.
On va parler de Pont.
Qu'est-ce que vous avez découvert à Pont? Qu'est-ce qui vous a plu, en fait, dans cette ville-là, depuis que vous y habitez? Je veux dire, au-delà de l'idée de trouver une maison vers là, maintenant que vous y vivez, que vous êtes installé là, que vous êtes un nouvel habitant de la ville, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont... Qu'est-ce qui vous a agréablement surpris? Et qu'est-ce qui vous a un peu, peut-être, désagréablement surpris? On peut en parler aussi.
Alors, avant de parler de la ville elle-même, je vais parler des habitants.
Des Pontois,
Des Pontois. Mais... Même pas que des Pontois, je veux dire des Charentais.
Des Charentais.
Depuis que nous sommes installés, et ça m'est arrivé encore il n'y a pas longtemps, chaque fois que l'on a dit à quelqu'un qu'on venait d'arriver à Pont, tout le monde nous a souhaité la bienvenue. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais connu avant, où que ce soit. Ça, c'est quelque chose qui nous a surpris, vraiment. Mm-hmm. Donc, c'est vachement agréable, quoi.
Et oui, le premier réflexe, c'était de vous souhaiter la bienvenue.
Une entreprise qu'on fait venir, qui est de La Rochelle, le gars, il vient à la maison, on discute. « Ah, vous êtes nouveau arrivant, bienvenue !» C'est sympa.
J'ai dû vous dire la même chose.
Oui, vous m'avez dit aussi la même chose. Et pourtant, je venais de vous dire que ça faisait presque un an qu'on était arrivé. Donc, même au bout d'un an, de nous dire encore bienvenue, ouais, c'est vachement sympa, ça nous change.
En tout cas, vous vous êtes senti accueilli.
Accueilli.
En tout cas.
Voilà, mais même ça, au bout de 2 mois, on a été invité par la municipalité pour prendre le pot des nouveaux arrivants. C'est bien. Nous, on vient d'un village où il n'y avait même pas 1500 habitants, mais on ne nous avait pas fait ça, quoi. Donc, non, c'est assez agréable.
Après, voilà. Par rapport à l'environnement,
elle est jolie, hein. C'est une cité médiévale, puisque c'est une cité médiévale, quand même. Et avec ce donjon qui est, d'après ce que j'ai compris, quand même très, très connu à travers le monde par rapport à son histoire, avec Richard Cœur de Lion. Hein. Donc, il me semble que c'est tous les anglo-saxons qui s'intéressent à Pont, quand même.
C'est possible.
Oui, même des Américains connaissent Pont. Cette année, on ne les a pas vus, ça c'est sûr. Malheureusement. Mais non, c'est très agréable avec les bords de la Seigne et tout, qui suffit de faire.
Vous êtes promené à pied.
Oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Ah oui, mais bon. Ouais. Pas souvent, parce que, comme je vous ai dit, on est dans les travaux depuis bientôt un an. Alors, c'est une journée de temps en temps, quand on a la famille qui vient ou des amis, on sort, on va faire un petit tour. Mais bon, voilà, c'est.
Est-ce que vous avez eu l'occasion d'aller jusqu'à l'hôpital des pèlerins ?
Pas encore.
Et puis, je vous le conseille parce que c'est un endroit qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, hein, quand même.
D'accord.
C'est un lieu de pèlerinage sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, etc. On en parlait il y a quelques jours avec. Parce qu'il y a un musée archéologique qui est installé dans ces locaux-là. Et on avait le président de la société archéologique qui parlait justement de la réouverture de ce musée. Et voilà, en termes de lieux connus, reconnus, pontois, cet hôpital des pèlerins, et pour être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est quand même pas rien, c'est à signaler. Donc je vous invite à aller à l'occasion d'une promenade.
C'est toujours le problème lorsqu'on est exploitant de chambres d'hôtes, c'est-à-dire que c'est en saison que bien souvent des lieux à visiter sont ouverts au moment où nous on a beaucoup de monde et on peut pas sortir, se balader.
Vous pouvez juste conseiller à vos hôtes.
Mais souvent on donne des conseils aux gens et ils disent ah vous y avez été ?
Pas encore.
Donc bon, ils comprennent très bien que.
Mais c'est ouvert toute l'année. Hein.
Et c'est ouvert,
oui, c'est ouvert toute l'année. On va y aller. Ouais. Alors moi il y a une chose par contre. Alors, il doit y avoir certainement une très bonne raison. Une question que je me suis posée, parce qu'on m'a dit qu'il y a des souterrains sous Pont. Et les souterrains, c'est quelque chose qui intéresse les gens. Mmh. Je le disais, apparemment, ce n'est pas exploité. Mmh. Alors, si on peut me renseigner, j'aimerais bien, parce que je pense que s'il n'y a pas de risque, ou je ne sais pas, ça pourrait être intéressant. Les gens sont toujours en recherche de choses qui sortent de l'ordinaire.
D'exploration.
Ouais, d'exploration, et puis de vivre des moments un peu particuliers. Lorsque nous étions à Campan, juste à côté du village, en flanc de falaise, il y avait des cavernes. Et j'ai dit à mon épouse, moi je verrais bien me demander à l'autorisation à la municipalité de pouvoir créer un espace genre homme de Cro-Magnon, hein, pour que les gens viennent. Alors ils payent leur séjour bien sûr, mais ils dorment dans la grotte, sous des fourrures, sur une paillasse, on mange la cuisse de poulet qui vient de griller. Et je racontais ça aux autres des fois, et j'ai eu de nombreuses fois des gens qui me disaient « Ah ben si un jour vous faites ça, moi je viens ». Pour vous dire que les gens ils ont besoin de choses qui sortent vraiment de l'ordinaire. Et visiter des souterrains comme ça sous une ville, je sais pas, mais ça pourrait être intéressant.
L'appel est lancé et l'émission de donner la parole aux habitants de Pont sert à ça. D'une certaine manière, il y a des possibles, et peut-être que effectivement les Pontois historiques entre guillemets y ont même pas pensé parce que ça fait partie de notre environnement. C'est fermé. Mais effectivement, les regards extérieurs comme le vôtre et de nouveaux habitants permettent des fois de mettre en lumière comme ça des possibles que nous on n'a pas forcément. T'imagines ?
Il y a des choses à faire parce que Pont, c'est une ville tellement jolie, tellement agréable, et qui mérite d'avoir encore plus de touristes qu'elle peut en avoir. J'avais dit je ne sais pas comment il s'appelle, à l'office de tourisme, des personnes...
Julien, peut-être ?
Je pense que c'est Julien. Mmh. Je lui avais dit, on peut organiser des choses... chaque année, avec les gens qui viennent, vous organisez un concours de dessin, celui qui aura fait le plus beau dessin du donjon, par exemple. Mais ce genre de choses, ça peut faire connaître avec des prix, hein, les commerçants, ils travaillent grâce aux touristes aussi, donc il faut que ils ouvrent leur porte-monnaie, et puis ils font des cadeaux, et puis ça permet de récompenser les gens qui participent. Alors, mettre ça en place, ça peut être un truc assez sympa. Et je lui avais parlé aussi d'une chose que nous, on avait organisée à La Réunion. Ça n'a jamais été fait nulle part. J'ai gardé le secret longtemps. J'ai pas voulu le donner. Je l'avais pas donné dans d'autres communes, mais à Ponge, ça y est, je l'ai donné. Ah, je crois que c'est Julien. C'est, je l'ai donné parce que, franchement, on avait fait quelque chose qui a été formidable. C'était un triathlon des flemmards.
Rien que le nom m'amuse.
Déjà. Mais je vous jure, on a eu des gens, c'était passé dans les journaux, on a eu des gens, alors c'était par équipe de deux, hein, des gens qui habitaient à plus de 100 km qui sont venus participer. Et on avait des lots, mais en quantité. Alors le triathlon des flemmards, c'est un concours donc de pétanque, un concours de belote, et un concours de lancer de fléchettes assis dans un rocking chair. Vous voyez le tableau un peu. Voilà. Donc, et les gens, mais ça les avait régalés, et je me disais, alors voilà, la commune qui met ça en place et qui appellerait ça le triathlon des flemmards, le triathlon international
des flemmards,
de Pont, parce que je pense les ans vous remettez ça, et tous les ans vous avez du monde, au bout de 10 ans, mais c'est la folie, je veux dire, et ça peut se faire sur 2 ou 3 jours, et bien ça fait que les gens ils viennent pendant 2 ou 3 jours, ceux qui veulent participer.
Carrément.
C'est un truc vachement sympa.
Je pense que vous allez vous intégrer facilement à la vie associative pontoise, qui est riche d'habitants motivés justement à dynamiser la commune, à y créer des actions comme celle-ci. Et vous êtes au bon endroit aussi au centre social. On a une vie associative riche à Pont. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion encore de mesurer ça. Mais beaucoup de personnes justement sont en quête d'idées, d'animation, de dynamisation, on va dire, de la ville. Et je suis sûr que ces idées-là que vous avez, par le transit de Radio Pont, vont tomber dans les bonnes oreilles et vous allez avoir, je l'espère, des échos. Votre métier, aujourd'hui, c'est hypnothérapeute.
Voilà.
Donc on va commencer à en parler un tout petit peu là, mais probablement à l'antenne, on aura l'occasion de développer ça un petit peu plus et peut-être même de proposer des choses aux auditeurs.
Ouais. Alors l'hypnothérapie, normalement on n'a pas le droit de dire hypnothérapeute, mais praticien en hypnose ericksonienne, hein, du nom de la personne qui a mis au point cette technique. J'ai eu un cabinet pendant 4 ans à Bagnères-de-Bigorre. Ça s'est arrivé comment? Un jour, en regardant la télévision, par rapport à une phobie que j'avais, je vois M. Mesmer, que tout le monde connaît, qui à l'époque faisait de l'hypnothérapie. Maintenant, il a dérivé, malheureusement, vers le spectacle. Et je le vois un jour avec une personne qui avait la même phobie que moi. Et je vois le résultat et je me dis quand même, si c'est vrai, c'est quand même fantastique. Et donc, je suis un petit peu le parcours de ce monsieur, et mon épouse me dit, il passe à la télévision, ces séances doivent être chères, mais dommage, parce que, je vais
ça
dire...
Hein,
j'ai une trouille du vide, mais c'est incroyable. Voilà, j'ai très peur du vide. Et je me renseigne sur lui, je me renseigne sur l'hypnothérapie, et à force, au bout de 6 mois, 1 an de recherche, de lecture... Mm-hmm. Je finis par recevoir de la publicité pour me former à l'hypnothérapie. Alors bon, ça, au début, ça m'amuse. Et puis, un jour, je suis en discussion avec une de mes anciennes chefs de service. Et puis, je lui raconte donc le truc. Elle me dit, mais Pascal, j'ai travaillé pendant des années avec toi, je te connais. C'est exactement fait pour toi. Vas-y, fonce. Alors, j'étais sûr. Oui, vas-y, fonce. Mmh. Et donc, finalement, j'ai été formé donc, à Hypnosud, à Toulouse. Et puis j'ai ouvert mon cabinet à Bagnères-de-Bigorre. Voilà.
Alors, si peut-être pour nos auditeurs, ce serait bien de donner quelques éléments sur le qu'est-ce que c'est que l'hypnose ericksonienne, comment ça se pratique entre guillemets, et qu'est-ce qu'on peut en attendre.
Tout à fait. Alors ça n'a rien donc à voir avec l'hypnose de spectacle, déjà pour rassurer les gens.
Vous ne devinez pas des cartes que les gens ils ont dans leur poche, quoi.
Non.
C'est pas...
Alors l'hypnose, tout le monde en fait toutes les 3 heures à peu près. L'état hypnotique, c'est quoi? C'est Vous êtes devant la télévision, vous êtes passionné par ce que vous regardez. Quelqu'un vous parle, vous ne l'entendez pas. Vous êtes en état d'hypnose, tout simplement. Vous conduisez, vous faites beaucoup de route, et puis tout d'un coup, vous vous dites, tiens, on est déjà arrivé, je n'ai pas vu la route. Vous étiez en état d'hypnose. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, l'état d'hypnose, c'est pas quelque D'accord, chose c'est dangereux, c'est pas quelque chose de grave, c'est quelque chose que tout le monde plus ou moins connaît. Il y a que 5% de la population qui connaissent pas ça, parce que c'est les gens qui ne lâchent pas prise. Quand on dit quelqu'un, vous n'êtes pas réceptif, tout le monde est plus ou moins réceptif. C'est que la personne, elle veut garder toujours le contrôle et ça peut pas marcher. Quelqu'un qui n'a pas envie d'être hypnotisé, ça ne marchera jamais. D'accord. Quelqu'un qui n'arrive pas à lâcher prise, ça ne marchera pas. Mmh. Enfin, ça ne marchera pas. Ça peut marcher, mais il faut apprendre d'abord à lâcher prise. Mmh. Donc là, je conseille les gens d'aller faire du yoga, du reiki, des choses comme ça, où on va leur apprendre à lâcher prise.
Et puis, il y a peut-être une histoire de confiance aussi.
C'est la confiance.
L'établissement d'une relation confiante, quoi.
Moi, dans la pratique, je fais ce qu'on appelle pendant presque une heure une anamnèse, c'est-à-dire un état de lieu de la vie de la personne. Et justement, pendant cette discussion, pendant cet échange, je vais créer ce climat de confiance et je vais observer la personne, lui dire des certaines choses pour que, dans son comportement, elle fasse ce qu'on a, nous, on appelle le yes set, c'est qu'elle me dise « Ok, je suis prêt, je suis d'accord, j'ai confiance en vous pour pouvoir faire une séance. » Pour continuer, pourquoi l'hypnothérapie ? Vous savez que maintenant, on en pratique de plus en plus, dans tous les hôpitaux, dans toutes les cliniques, des gens sont formés à l'hypnothérapie, justement, parce qu'il y a beaucoup d'opérations qu'on peut faire sans injecter des produits anesthésiants à des personnes. Ces produits sont souvent nocifs. Mm-hmm. On fait même des opérations à cœur ouvert. Alors, que les gens soient rassurés, il y a bien sûr la seringue qui est prête. La personne peut revenir à tout moment. Hein. C'est, mm-hmm. Si quelque part elle le décide, elle peut. C'est comme ça. Donc, être prévoyant.
Ah, je pense qu'on va explorer toutes ces questions-là. Ouais. Alors peut-être pas là parce que on a déjà une discussion qui est bien étoffée, on va dire, pour une première rencontre. On va se redonner rendez-vous alors, Pascal, pour parler plus de cet objet-là qu'est l'hypnothérapie, sa pratique, parce que c'est quand même quelque chose qui peut apporter un bien-être, un mieux-être aux personnes.
C'est pas peut-être, c'est sûr.
C'est sûr. Oui, oui. Et comme on l'avait fait avec notre amie Anna, elle est psycho-énergéticienne qui a fait un certain nombre d'émissions, qui a parlé du stress, qui a parlé de la médecine chinoise et d'un certain nombre de choses, et qui a on a diffusé aussi des petites musiques de relaxation, des petits espaces de relaxation via la radio. On va essayer de faire des choses comme ça et de proposer aux auditeurs de s'installer et de se laisser emmener.
Avec plaisir.
Avec plaisir.
Voilà.
Comment s'est passée cette discussion ?
Ben écoutez, c'est une bonne expérience déjà, c'est bien, c'est convivial, donc ça peut que aller.
Ben super. Voilà.
Merci de m'avoir accueilli.
Eh bien, re-bienvenue à Pont, un nouvel habitant qui inaugure cette session de paroles données aux habitants. C'est chouette. Welcome, et puis à bientôt, Pascal.
À bientôt, merci beaucoup.
À bientôt.